Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de mettre en valeur la parole d'agricultrices, d'agriculteurs qui sont engagés, qui incarnent un certain nombre de pratiques et qui expriment leur espérance face notamment à la situation actuelle, à la crise. Et donc, je suis actuellement avec François Coutan, qui est dans l'Astarac, qui habite à quelques pas de notre département des Hautes-Pyrénées, que je connais depuis longtemps et qui a entamé, il y a déjà 20 ans et plus, une pratique d'agroécologie sur son exploitation. Et donc, je voulais partager un petit peu ce témoignage avec vous, chers auditeurs, et puis nous permettre justement de réfléchir sur les mutations en cours, sur les difficultés du monde agricole et s'inspirer des témoignages d'un certain nombre d'agricultrices et d'agriculteurs sur nos territoires. Donc, François, bonjour. Peut-être deux mots de présentation.
Oui, bonjour. Donc, François Coutan, je suis agriculteur jeune retraité actuellement à Marciac, sud-ouest du Gers, pas loin des Hautes-Pyrénées, c'est tout à fait ça. Je suis marié, j'ai 4 enfants et je cède mon exploitation actuellement à mon gendre. Voilà, après, c'est tout un long cheminement.
Alors peut-être simplement, François, si vous pouviez nous présenter en quelques mots, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette démarche d'agroécologie? Qu'est-ce qui vous a inspiré?
Oui, c'est vrai qu'au départ, peut-être il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont incité à changer complètement. C'est parce que c'est vrai que moi, j'ai repris une exploitation dans une situation financière très compliquée. Et on avait construit un lac pour s'en sortir, ce qui a très bien marché pendant 7 ou 8 ans, mais où on a vite connu la crise par rapport aux coteaux et l'érosion. Et c'est là qu'on a, avec l'accompagnement, c'est vrai, de l'ACUMA et je suis rentré au CETA Agrodoc, où on a complètement remis tout en route quelque part. On est reparti sur un chemin complètement différent parce qu'il n'y avait plus de rentabilité quelque part. C'était ça le but essentiel. Et après, je me dis, bon, après, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas le dire en quelques minutes si on va aller par là. Mais bon, l'essentiel, c'était ça. C'est peut-être qu'on a connu la crise avant la crise. Et ça a été sans doute important.
Alors tout à fait, la crise avant la crise, mais concrètement, peut-être en deux mots, nous dire un petit peu qu'est-ce qui a vraiment changé quotidiennement dans votre pratique avec ce choix-là.
Ben, ce qui a changé, c'est bon, après ça se fait pas du jour au lendemain, parce que on a arrêté le labour en 1993. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Hein. Mais c'est vrai, quand on voit le résultat, je me dis, bon, c'est possible. Donc, on a arrêté le labour, mais je le redis avec un accompagnement, parce que j'étais rentré au CETA Agrodoc. Donc, on avait les ingénieurs d'Agrodoc qui nous suivaient. On avait une réunion tous les 15 jours, parce que c'était en même temps qu'il n'y avait plus les GDA. Donc, les agriculteurs ne se retrouvaient plus. Et le gros problème pour moi, je dis aujourd'hui, de beaucoup d'exploitations, c'est que les agriculteurs ont été livrés à eux-mêmes. Ça n'a plus été les agriculteurs qui se sont retrouvés ensemble, c'est les techniciens, c'est quand il y a eu ce changement que les techniciens ont été financés par les coopératives plutôt que les chambres d'agriculture. Et là, ça a été l'inverse, c'est le technicien qui venait chez l'agriculteur. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus de développement vraiment et les agriculteurs n'ont plus ces échanges entre eux. Et pour moi, la cause aujourd'hui du mal-être quelque part, elle est en partie, bon c'est facile de le dire avec le recul, hein, mais bon c'est quand même très important. Mais si on veut parler un peu plus de l'évolution de mon exploitation, donc on a arrêté le labour en 1993 et après on a essayé pas mal de semi-direct. On a fait du semi-direct en conventionnel. À l'époque, on était en conventionnel, toujours dans mes coteaux, jusqu'en 2000 où on a avancé beaucoup plus vite le jour où on avait découvert la févrole. Et là, on a passé un peu la vitesse supérieure par rapport à l'augmentation du taux de matière organique. Les deux combinés, ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire. Et après, bon, en 2015, on se disait, parce qu'on avait quand même très bien maîtrisé, on commençait à très bien maîtriser les semi-directs sous couvert, avec une baisse d'intrants qui était énorme. Parce que même des années où on avait des très grosses févroles, on mettait plus de glyphosate. Les quantités d'azote étaient tombées de 2 pour du maïs, de 200 unités à 80 unités d'azote, parce qu'une févrole, il faut savoir qu'elle fournit quand même 300 unités d'azote, dont un tiers est disponible dans les 3 premiers mois. Et après, on a dit, bon, il faut aller plus loin, mais toujours parce qu'on était aussi en groupe. Je n'étais pas tout seul. Hein. C'est ça, je le redis, je le dis, je le redis. On était trois ou quatre dans la CUMA à travailler un peu ensemble et au groupe de CETA. En plus, on était au CETA ensemble. Et là, on a dit, bon, il faut améliorer. Quand je voyais la problématique du bio dans le Gers, je me disais, bon, ça, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Parce que pour moi, écologiquement, c'était encore pire que le conventionnel. Quand on voyait tous ces labours, ces travails du sol intenses en bio. Et c'est là qu'on a dit, bah, il faut qu'on essaie de trouver des solutions, même pour le bio. Et c'est vrai que mes sept, huit dernières années, je me suis consacré à ça, à trouver des systèmes en bio sans toucher le sol presque. Et alors, bon, après, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est mon gendre qui reprend. Et en plus, lui, il est passionné quand même d'élevage et il a besoin d'élevage pour le transformer. Alors là, on remet tout en prairie. Oh, ben là, c'est le top. Et après, même aujourd'hui, il vient de récupérer des terres. C'est une anecdote, mais des terres qui étaient labourées et irriguées depuis 30 ans, là, dans les coteaux. Et il me dit, mais pourquoi là, ça pousse pas? Et là, ça pousse. Et c'est vrai que pour tout expliquer, pour tout comprendre, voilà, c'est bon, c'est des petites choses. Mais enfin, aujourd'hui, on est quand même arrivé à 4% de matière organique sur 30 cm, alors qu'on a démarré à 1,7 en 1993, quoi. Et je vous garantis que le résultat, c'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrive à ces taux-là, on est capable d'être complètement autonome. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. On n'achète aucun intrant. Hein. C'est en plus de bambio, alors là, c'est sûr, il n'y a pas non plus de produits phyto. Et on se rend compte que c'est capable. Et en plus, on est suivi encore par un groupe de pâturage tournant dynamique, il n'avait qu'au deux, et qui nous dit, bon sang, mais vous êtes vraiment dans la fourchette haute de production, quoi. Alors qu'on est dans les coteaux très raides du département. Mais on sort une production très importante quand même.
Alors on voit effectivement dans cette démarche, telle que vous le témoignez, François, qu'elle a vraiment changé votre rapport au métier. Elle a dû changer aussi pour vous le sens du travail, tout simplement. Et puis le regard aussi sur les autres.
Ben, c'est vrai qu'il y a des fois, on dit nul n'est prophète dans son pays, mais parce qu'il y a des fois, ça fait quand même râler de voir l'évolution quoi, autour de nous qui n'avance pas assez vite, même si ça avance. Parce que quand même, je me dis, ça avance quand même. Parce que quand je vois les févroles, nous, on a commencé à en semer en 2000. Et aujourd'hui, quand même, ça s'est bien vulgarisé. Bon, c'est sûr, il faut 15 ans, mais 15 ans après, quand même. Donc, c'est des petites graines qui se sèment. Et après tout, parce que tout ça, c'est quand même des quantités d'azote qui sont plus apportées. Et par rapport à l'écologie, c'est quand même important. Même si c'est pas si ça fait pas tout, c'est quand même très important. Et bon, après, c'est vrai que. Mais moi, je suis plein d'espoir parce que je me dis, ça a été possible sur mon exploitation dans des coteaux très raides. Bon, c'est sûr, j'ai eu la chance d'avoir l'accompagnement, d'avoir. Ça se fait pas tout seul. Mais bon, on a les solutions quelque part aujourd'hui. Je me dis, on a les solutions. Donc, c'est possible.
Et sur le plan économique, bon, par rapport à votre expérience, aujourd'hui, ça vous a apporté une certaine stabilité au niveau économique, moins de dépendance, sans doute, on l'a bien entendu, et puis plus d'autonomie.
Ah ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on prend l'exploitation, il y a 30 ans et l'exploitation aujourd'hui, même entre la dépendance au matériel, la dépendance aux intrants, la dépendance même à la main-d'œuvre extérieure, la dépendance même à tous les groupes, les coopératives et tout ça, parce que c'est vrai qu'on a eu la chance de construire un stockage en commun, en CUMA encore. Et on a fait un stockage en CUMA et aussi une fabrique d'aliments à la ferme en CUMA, parce que c'est un peu la chaîne. Et donc, si on veut aller par là, on est complètement indépendant aujourd'hui. Et en plus, on n'est pas. Avec les animaux, c'est encore pire, parce que là, on ne met aucun intrant. Mais enfin, je vois mon frère qui est toujours resté aussi en culture. Mais c'est pareil, les intrants, c'est minime. Enfin, moi, quand on parle des intrants, c'est pas rien. Sur une exploitation de 100 hectares, aujourd'hui, moi, on est passé en bio, on est passé quand même de 50 à 60 000 euros d'appro à 5 000 euros d'appro, quoi. Et aujourd'hui, on est à zéro. Ben, c'est quand même différent. Enfin, il y a une approche quand même qui est complètement différente. Et c'est pas rien, quand même. Pour le psychique de la personne, quelque part. Parce que vous vous rendez compte, les risques qu'on prend, c'est bien moindre, quoi, quelque part.
Alors François, j'ai envie de vous poser cette question, puisque vous avez cette pratique de longue date et vous êtes un témoin de ce que peut être aujourd'hui pour votre exploitation agricole l'agroécologie. Est-ce que vous pensez que l'agroécologie peut être aussi une réponse collective aux crises agricoles actuelles ?
C'est sûr que de toute façon, quand on voit ce que le sol est capable de produire sans intrants, c'est là où. Quelque part, c'est phénoménal. Enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait aussi la rentabilité. Sachant que même par rapport au matériel aujourd'hui, les puissances de matériel qui sont utilisées parce que le sol est dégradé. Alors que quand tous les agriculteurs vont vous le dire, hein, quand il y a eu une prairie de 10 ans, pour labourer derrière, mais ça se fait tout seul, et pour préparer aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait ? La seule différence, c'est parce qu'il y a un taux de matière organique qui est très important. Autrefois, comment ils faisaient ? Ils faisaient des très beaux maïs, même sans irriguer, derrière une prairie de 7-8 ans. Et c'est vrai que sans intrants, sans irrigation. C'est pour dire que la structure du sol, c'est quelque chose de primordial et qui, quelque part, on le comprend facilement, quoi, qui rend une rentabilité bien plus importante parce qu'il y a moins de charges. C'est même pas la rentabilité, c'est pas qu'on fasse plus de rendement et tout ça, mais c'est qu'on dépense beaucoup moins. Et alors après, bon, c'est sûr, là, le revenu, il y est ou il y est pas si ça nous coûte très cher.
Alors, cher François, on arrive à la fin de l'émission déjà. Hein. Ça passe vite et c'est passionnant. Mais on se connaît. Je sais que vous êtes aussi investi dans l'église, sur le diocèse de Auch, en particulier dans le groupe Terre d'Espérance, je crois. Et donc, j'avais envie de vous poser cette question un peu plus spirituelle, un peu plus personnelle, savoir en quoi, justement, cette conversion et cette agroécologie, elle rejoint finalement vos convictions profondes, à la fois humaines et spirituelles.
Oui, bon, mais là, c'est quand même un sujet qui est un peu différent. Mais si, personnellement, c'est quand même parce qu'on œuvre quand même dans le bon sens, surtout quand on reprend là, la lecture du pape, là où d'autres aussi, c'est parce qu'on avait commencé à y travailler par rapport à ça, mais c'est, rien n'a changé quelque part. On nous dit de prendre soin de la terre, quoi, notre terre-mère, et c'est vrai que c'est quelque chose quand même de très inspirant, quoi, et puis même de très rassurant. Enfin, c'est primordial, même dans notre groupe Terre d'Espérance, là, quand on a une personne qui est à Toulouse, là, sur la météo et tout ça, et quand on voit aujourd'hui même l'agriculture, l'influence qu'elle pourrait avoir sur le réchauffement climatique, je me dis, quelque part, il faut qu'on essaie d'y travailler, quoi, tous, enfin. Et c'est notre rôle en tant que chrétien de le divulguer, même d'en parler, même si c'est pas facile, même si on a quelque part toutes les instances qui sont des fois contre nous. Mais il faut quand même le faire savoir parce qu'il y a des solutions. Et c'est en tant que chrétien, il faut quand même essayer de parler, de le dire. Et même si c'est ça notre rôle de chrétien, c'est de le faire savoir.
En tout cas, merci infiniment, cher François. Je pense que, effectivement, votre témoignage est magnifique dans ce sens où on voit bien qu'une dynamique comme celle que vous avez entreprise, c'est-à-dire l'agroécologie, n'est pas un retour en arrière. On est quand même dans une manière d'avancer, mais autrement, et avec la terre plutôt que contre elle. C'est ça, en résumé. Alors voilà, chers auditeurs, je tiens d'abord à vous présenter à cette occasion, puisque c'est la première émission de l'année, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et puis je tiens à remercier aussi François Coutant pour ce beau témoignage d'espérance, en tout cas dans ces temps si difficiles que traverse le monde agricole. En tout cas, merci et à bientôt. Au revoir, François.
Au revoir.